Aristote, de la génération et de la corruption, chapitre 10. Paragraphe 1. Il nous reste à étudier ce que c'est que le mélange des choses, et nous suivrons ici la même méthode que précédemment, car c'est là le troisième des sujets que nous nous étions proposés d'examiner au début de ces recherches. Il faut donc voir ce que c'est que le mélange. Ce qu'est la chose susceptible d'être mélangée, quelles sont les choses entre lesquelles le mélange peut se faire et comment ce phénomène s'accomplit. Paragraphe 2. D'autre part, on peut même aussi se demander s'il existe bien réellement un mélange des choses ou si ce n'est là qu'une erreur, car on peut croire qu'une chose ne doit jamais se mêler à une autre, ainsi que le prétendent quelques philosophes. En effet, disent-ils, quand les choses qui ont été mêlées subsistent encore et ne sont pas altérées, on ne peut pas dire qu'elles sont actuellement plus mêlées qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais elles sont toujours au même état. Si l'une des deux choses est venue à disparaître dans le mélange, on ne peut plus dire qu'elles sont mêlées, mais seulement que l'une existe et que l'autre n'existe plus. Tandis que le mélange ne peut vraiment avoir lieu qu'entre deux choses qui existent également. Enfin, ajoute-t-il, il n'y a pas non plus de mélange, et par la même raison, si deux choses qui se réunissent viennent toutes les deux à être détruites en se mêlant. Car il est bien impossible que les choses qui ne sont plus du tout puissent être mélangées. Paragraphe 3. Cette théorie, on le voit, a pour but de déterminer en quoi le mélange des choses diffère de leur production et de leur destruction, et aussi en quoi la chose mélangée diffère de la chose produite et de la chose détruite. Car évidemment, le mélange doit différer en supposant qu'il soit réel. Une fois ces questions éclaircies, celles que nous nous étions posées se trouveront résolues. Paragraphe 4. C'est là ce qui fait aussi qu'on ne peut pas dire que la matière s'est mêlée au feu qui l'a consumée, ni même qu'elle s'y mêle pendant qu'elle brûle. De même qu'on ne pourrait pas dire qu'elle se mêle à elle-même dans les parties du feu, pas plus qu'au feu lui-même. Mais on dit simplement que le feu s'est produit et que la matière combustible s'est détruite. De même encore, on ne peut pas dire davantage, ou de la nourriture, que c'est en se mêlant au corps, ou de la forme du cachet, que c'est en se mêlant à la cire qu'elles donnent une certaine figure à la masse entière. On doit reconnaître aussi que ni le corps et la blancheur, ni, en un mot, les qualités et les affections des corps ne peuvent se mêler aux choses, puisqu'on voit au contraire que les deux subsistent. La blancheur et la science ne peuvent pas davantage composer réellement un mélange, non plus qu'aucune des qualités ou attributs qui ne sont pas séparables. Paragraphe 5. Aussi est-ce se tromper que de soutenir que toutes choses ont jadis été confondues et que tout s'est trouvé mêlé. Car tout ne peut point se mêler indifféremment à tout. Il faut toujours que chacune des deux choses qui se mêlent puisse subsister séparément. Or, jamais les qualités des choses n'en peuvent être séparées. Mais comme parmi les choses, les unes sont en simple puissance et les autres en réalité, il s'ensuit que les choses qui se mêlent peuvent, en un sens, exister encore et, en un certain sens, ne plus exister. Si, en réalité, le produit qui résulte du mélange est quelque chose de différent, il n'en est pas moins toujours, en puissance, les deux choses qui existaient avant de se mélanger et de se perdre dans le mélange. C'est là précisément la réponse à la question que soulevait la théorie dont nous venons de parler. Et il semble que les mélanges se forment de choses qui étaient antérieurement séparées et qui peuvent l'être encore de nouveau. Ainsi, les choses mélangées ne subsistent pas en réalité comme demeure et subsiste le corps et la blancheur qui le caractérisent. Et elles ne sont pas non plus détruites, soit l'une des deux isolément, soit toutes deux à la fois, puisque leur puissance se conserve toujours. Paragraphe 6. Mais laissons ceci de côté et passons à la question suivante, qui consiste à savoir si le mélange est quelque chose que puissent percevoir nos sens. Par exemple, lorsque les choses mélangées sont divisées en parties assez petites et qu'elles sont placées assez proches les unes des autres pour que l'une ne soit plus sensiblement distincte de l'autre. Y a-t-il alors ou n'y a-t-il pas mélange? Mais n'est-il pas possible aussi que dans le mélange, les choses quelconques soient placées, partie par partie, les unes à côté des autres? Car on appelle encore cela un mélange. Et c'est ainsi que l'on dit que la paille est mêlée au grain, quand à côté de chaque grain est placé un brin de paille. Paragraphe 7. Si un corps est divisible, et si un corps, quand il est mêlé à un autre corps, doit lui être homogène, il faudrait que toute partie quelconque du mélange s'unit à une autre partie quelconque. Mais comme le corps ne peut jamais être divisé en ses parties les plus petites, et comme la juxtaposition n'est pas du tout le mélange et est tout autre chose, évidemment, on ne peut plus dire que les choses sont mélangées quand elles se conservent ce qu'elles sont en petites particules. Alors, il y a juxtaposition. Mais il n'y a ni mixtion, ni mélange. Et la définition d'une partie du mélange ne pourra plus être la même que celle qu'on donnerait du mélange tout entier. Quant à nous, nous disons que, pour qu'il y ait un vrai mélange, il faut que la chose mélangée soit composée de parties homogènes. Et, de même qu'une partie d'eau est de l'eau, de même aussi doit être une partie quelconque du mélange. Mais si le mélange n'est qu'une juxtaposition faite de particules à particules, aucun des faits que nous venons d'analyser n'aura lieu. Et ce sera seulement pour les yeux que les deux choses paraîtront mélangées. Aussi, la même chose paraîtra mélangée à tel observateur qui n'aura pas la vue bien perçante, tandis que l'insee trouvera qu'il n'y a pas de mélange. Paragraphe 8. La division n'explique pas le mélange, non plus que ne l'explique la réunion d'une partie quelconque à une autre partie, puisque la division ne saurait avoir lieu de cette manière. Donc, où il n'y a pas de mélange possible, où il faut se mettre à un autre point de vue pour exposer comment ce phénomène peut avoir lieu. Rappelons d'abord que parmi les choses, ainsi que nous l'avons dit, les unes sont actives, les autres sont passives sous l'action de celles-là. Les unes ont une influence réciproque, ce sont celles dont la matière est la même, pouvant agir les unes sur les autres ou souffrir les unes par les autres également. D'autres agissent tout en restant impassibles. Ce sont celles dont la matière n'est pas la même. Et pour celles-là, il n'y a pas de mélange possible. Voilà comment la médecine ne se mêle pas au corps pour faire la santé, et pourquoi la santé ne s'y mêle pas non plus. Paragraphe 9. Même, parmi les choses qui peuvent agir et souffrir réciproquement, toutes celles qui sont faciles à se diviser, quand elles se mêlent en grand nombre à un petit nombre d'autres choses, et en quantité considérable à une quantité peu considérable, ne produisent pas précisément un mélange, mais seulement un accroissement de l'élément qui prédomine. Alors, l'une des deux choses mélangées se change en celle qui prédomine. Ainsi, une goutte de vin ne se mêle pas à une quantité d'eau qui serait de 10 000 amphores, car dans ce cas, l'espèce est dissoute et change, en disparaissant dans la masse d'eau tout entière. Mais lorsque les quantités sont à peu près égales, alors chacun des éléments perce de sa nature pour prendre de celle de l'élément qui est prédominant. Le mélange ne devient pas un des deux absolument, mais il devient quelque chose d'intermédiaire et de commun. Paragraphe 10. Il est donc évident qu'il n'y a mélange que lorsque des choses qui agissent ont une certaine opposition entre elles, car alors, elles peuvent souffrir quelque effet l'une par l'autre. De petites choses, approchées de petites choses, se mélangent davantage, car elles s'intercalent plus aisément et plus vite les unes dans les autres. Mais une grande quantité, sous l'action d'une autre quantité grande aussi, ne produit cet effet qu'à la longue. Paragraphe 11. Ainsi, parmi les choses divisibles et passives, celles qui se délimitent aisément peuvent se mélanger, car ces choses se divisent sans peine en petites parties. C'est là précisément ce qu'on entend par se délimiter aisément. Par exemple, les liquides sont de tous les corps ceux qui sont le plus susceptibles du mélange. Car le liquide est, parmi les choses divisibles, ce qui se détermine et se délimite le plus aisément, pourvu qu'il ne soit pas visqueux. Les corps visqueux ne font que rendre le volume total plus grand et plus considérable. Mais lorsqu'un des deux corps qui se mêle est seul à être passif, ou qu'il l'est beaucoup, et que l'autre l'est fort peu, le mélange résultant des deux, ou n'est pas du tout plus considérable, ou ne l'est guère davantage. C'est ce qui arrive pour l'étain mêlé à l'airain. Car il y a certains corps qui sont assez indécis les uns à l'égard des autres et sont d'une nature ambiguë. On peut observer que ces corps-là ne se mêlent qu'imparfaitement et dans une certaine mesure. On dirait que l'un est un simple réceptacle, tandis que l'autre est la forme. C'est là justement ce qui arrive pour ces deux corps qui viennent d'être nommés. Car l'étain, qui est comme une simple affection de l'airain sans matière, disparaît presque complètement et s'évanouit par le mélange, auquel il ne fait que donner une certaine couleur. Le même phénomène arrive aussi pour d'autres corps. Paragraphe 12. On voit donc, d'après tous les détails précédents, que le mélange est possible et ce qu'il est. On voit comment il se produit et quelles sont les choses entre lesquelles il peut avoir lieu. Ce sont celles qui peuvent souffrir une action les unes de la part des autres et qui sont facilement déterminables et facilement divisibles. Les substances de ce genre ne sont pas nécessairement détruites dans le mélange, mais elles n'y restent pas non plus absolument les mêmes. Leur mélange n'est pas une simple juxtaposition et les deux corps ne sont plus perceptibles au sens. Mais on dit d'une chose qu'elle est mélangée lorsque, pouvant se déterminer facilement, elle peut tout à la fois agir et souffrir, et qu'elle se mêle à une chose qui a aussi ses mêmes propriétés. Car la chose mélangée ne l'est jamais que relativement à une chose qui lui est homonyme. En un mot, le mélange est l'union, avec altération, des choses mélangées.